Monsieur de Montardan. Ernest a pu ajouter le cinéma à sa liste des premières fois. Sans que le maître lui demande une rédaction, il se sentit obligé de raconter cette aventure, immobile à une feuille de papier, car il ne pouvait pas le dire à sa grand-mère, à moins de lui exposer tout l'épisode de son expulsion de l'école. Il suivait les conseils de Monsieur de Montardan, qui lui avait dit « Ne t'en fais pas, Ernest. Laisse ta grand-mère tranquille. Je m'occupe de tout jeudi matin. » Alors, tranquillement, Ernest écrivit sur le cinéma. À un guichet, Victoire a payé 2 places. Nous avons pénétré dans une salle noire où un grand écran produisait seul la lumière. J'avais un peu peur, d'autant plus que le bruit était fort et les images violentes. « C'est la bande-annonce », m'a dit Victoire. Pratiquement les seuls spectateurs à cette heure bizarre de la journée, nous nous sommes enfoncés dans des fauteuils moelleux. J'ai pensé aux événements du matin. J'ai vérifié que mon livre était bien au sec dans mon cartable. Et j'ai été tentée de m'endormir quand le film a commencé. Et là, brusquement, j'ai arrêté de réfléchir, tellement la vie qui se déroulait devant moi m'a envahie. Je n'existais plus. Et c'était un grand confort. Et puis, à la fin, j'ai un peu titubé, avant de me rendre compte en sortant que c'était aussi l'heure de sortie de l'école, et que ce jour, ce mardi, devait se poursuivre, me poursuivre, espérant qu'il ne me rattraperait pas. Ernest laissa Victoire devant son immeuble. C'est là qu'il rencontra Monsieur de Montardan, qu'il n'avait jamais vu auparavant, et qui lui dit que Simon l'avait mis au courant de l'affaire, et qu'il les accompagnerait jeudi matin. Ernest se sentit brusquement étranger à sa vie, encore sous le charme du cinéma, mais encombré d'une sensation de manque. Il rentra, mangea sa pomme et réalisa ce qui lui manquait. Ses compagnons des après-midi, ses devoirs, il n'avait rien à faire. Il avait laissé ses livres en classe. Il ferma la porte de sa chambre, sortit le livre accidenté, tourna les premières pages et tomba sur « Pour Geneviève, Myrtille, Clémentine, prunes, cerises et pommes. » Il eut l'impression qu'au moins un nom manquait à cette dédicace. Ça le choqua et au lieu de lire le livre, il écrivit la première lettre de sa vie. « Cher Monsieur Morlès, votre livre m'a vivement intéressé. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment essayé de le lire et d'en découvrir le contenu. Ce qui m'a surtout attiré, c'est votre nom, parce que j'ai le même. » Je ne voudrais pas que vous vous apitoyiez sur ma vie. Celles de David Copperfield et d'Oliver Twist furent infiniment pires. En fait, je ne me rendais pas compte de l'austérité de mon existence avant de rencontrer Victoire, une amie de classe, et de découvrir une animation et une qualité de vie que je ne soupçonnais même pas. Ainsi, j'ai mangé une fondue bourguignonne. J'ai tenu un bébé dans mes bras. Je suis allée à l'hypermarché. C'est là d'ailleurs que j'ai trouvé votre livre. Et j'ai réussi, par ma propre volonté, à déplacer grand-mère jusqu'au restaurant de notre rue pour manger un couscous. Je ne sais pas si on m'embrassait quand j'étais bébé autant que le petit Jérémy, mais j'ai l'impression que mes premiers baisers ont commencé avec Victoire, qui m'embrasse tout le temps sur les 2 joues et qui jure que nous allons nous marier dans exactement 12 ans. J'ai 10 ans, je suis en CM2 et jusqu'à hier, j'étais un très bon élève. Grand-mère parle peu, mais je pense qu'elle en était contente. J'espère qu'elle n'apprendra pas qu'hier, j'ai été expulsée de l'école. J'étais à peine conscient que d'autres enfants étaient pourvus de mères, de pères, de sœurs et de frères. J'avais peu de contact avec les autres. J'ai essayé d'avoir des renseignements, mais grand-mère est très réservée. Elle m'a dit néanmoins que mon père était vivant. Ce père, serait-ce vous ? Je ne sais pas quoi espérer, mais veuillez recevoir, cher Monsieur Morlès, l'expression de mon espoir. Ernest Morlès. Il chercha dans tous les tiroirs des nombreuses commodes avant de dénicher une enveloppe jaunie. Le rabat n'avait plus de colle. Il inscrivit « Gaspard Morlès », mit du scotch et cacha la lettre dans le livre qu'il remit dans son cartable en attendant le terrible surlendemain. Victoire et son père l'attendaient, garés en double fil devant son immeuble. Dès qu'il sortit, ils klaxonnèrent. Monsieur de Montardan avait l'air à l'aise dans son costume cravate. mais crispé par cette tâche supplémentaire dans une journée surchargée. Et il avait l'air fatigué, terriblement fatigué, comme quelqu'un qui n'avait jamais demandé au Père Noël, au bon Dieu ou à la cigogne de lui apporter 14 enfants. Ernest ne savait pas comment on fabriquait les bébés. Ni grand-mère ni Germaine ne lui avaient jamais dit. Ça le gênait de demander à Victoire, car il avait peur qu'elle le sache et qu'elle le lui explique avec tous les détails sanglants. En tout cas, ça ne devait pas être excessivement difficile, puisque les gens les plus simples savaient le faire depuis l'éternité. Peut-être existait-il des choses qu'on n'avait pas besoin d'apprendre, qui venaient toutes seules, comme dormir et aimer Victoire. La directrice était, comme d'habitude, vexée, contrariée, en colère. Mais quand elle vit Monsieur de Montardan, elle devint tout sucre vanille et frangipane. Il était impeccable, habillé comme un Italien, haute couture et bonne coiffure. Grand, mince, pas exactement beau, mais avec un visage bien sculpté. Il avait l'autorité naturelle d'un chef. Déjà, avant de lui adresser la parole, la directrice regrettait d'avoir fait perdre son temps à un tel homme. Elle avait été indomptable au téléphone, lui martelant des « C'est inadmissible !» Mais face à face, tout ce qu'elle avait à lui dire, c'était « Ce n'est rien, monsieur. Les imprévus arrivent à tout le monde. » Et qu'elle s'assurerait personnellement que Victoire et Ernest rattrapent l'après-midi manqué et que ça ne nuise pas à leur carnet scolaire. Le père de Victoire ne pouvait pas placer un mot tellement elle susurrait des excuses et des pardons. Monsieur de Montardan était presque déçu, comme quelqu'un qui s'était préparé au combat et ne reçoit que des balles en coton. Il embrassa les enfants et courut à ses occupations. Victoire et Ernest furent accueillis en héros, aussi bien par les enfants que par le maître. Celui-ci leur rendit leur interro. Parfaite. Jérémie avait porté bonheur. Une des trois Élodies les invita à son goûter d'anniversaire, et Ludovic demanda à Ernest de jouer au foot à la récré. Ernest était devenu moins intouchable, mais il ne savait toujours pas jouer au foot. Et comme on s'habitue à tout, Ernest s'habituait très bien à être sociable. Mais plus il parlait avec des gens à l'extérieur de la maison, plus il avait envie de parler à sa grand-mère, à l'intérieur. Sans vouloir l'effrayer, il avait l'intention de lui raconter l'histoire de Jérémie à l'école et de lui montrer le livre. Déterminé, Ernest entra dans son appartement, plus silencieux qu'un cinéma vide. À la cuisine, il vit que la table n'était pas mise, qu'aucune casserole ne chauffait sur le feu, que même ses petits feux de vie s'étaient éteints. Seul, le sac de légumes pour la soupe était posé sur le buffet. Il courut dans la chambre de sa grand-mère. Le lit n'était pas fait, et son occupante avait disparu. Il pensa à sa lettre, comme si elle avait amené la foudre. Mais il savait qu'il ne l'avait même pas envoyée. Il tournait en rond. Il chercha l'autre lettre cachée, comme si ses gribouillages pouvaient apporter une solution. Il ne voyait pas quoi faire, sinon aller mobiliser Victoire. Sauf que s'il partait et que sa grand-mère revenait, c'est elle qui se ferait du souci. Du souci. Voilà ce qu'Ernest entreprit de se faire. Il s'assit sur le sofa cabossé et se laissa envahir par une terreur qui empoisonnait son cerveau et paralysait toute initiative. Il s'assit là, sans bouger, sans lire, sans réfléchir, à écouter l'écho dans sa tête qui reprenait sans cesse. « Grand-mère est morte ». À la cinquième fois, quand la phrase s'était tellement ancrée qu'il y croyait, sa grand-mère, tout habillée, entra doucement dans le salon, s'assit à côté de lui et dit « Germaine a eu un malaise. On est allé à l'hôpital en ambulance. C'est le voisin qui l'a appelé pour moi. On va l'opérer du cœur, tout de suite. » Et là, Ernest fut témoin d'une chose jamais vue. Sa grand-mère fondit en larmes. Ernest prit ce tas d'os fragile dans ses bras et dit non pas « ne pleure pas », mais au contraire « pleure, pleure ». Elle chuchota. « Je savais au fond de moi qu'un jour il n'y aurait plus personne pour s'occuper de toi. Quand on dépasse les 80 ans, les jours sont comptés, mais je faisais semblant de ne pas écouter ma peur. » Puis, elle se ressaisit et lui dit « Viens. On va manger quelque chose en bas. et je t'accompagnerai à l'école. Puis je ferai quelques courses pour ce soir. Je peux les faire, grand-mère, en sortant de l'école ? Je ne sais pas comment on va faire face, Ernest. Je suis trop vieille et tu es trop jeune. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Nous aurons le courage qu'il faut. Et Germaine, elle... Est-ce qu'elle a eu très mal ? Oui. Mais maintenant, elle dort. Et ils m'ont dit que... Elle ne pourrait plus travailler. Ernest finit la phrase. Et je n'ai pas beaucoup de force, Ernest. On partagera la mienne, grand-mère.